Mais la fois dernière, une série d'études sur l'objet de l'espérance chrétienne, sur ce que révèle l'Écriture à propos des événements de la fin, et nous avons concentré notre attention au mois de mai sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons souligné que nous n'attendons pas quelque chose, mais quelqu'un. Cette formule, bien sûr, veut souligner que tout l'élan de notre espérance va vers lui, s'attache à lui, mais ne veut pas exclure, bien entendu, l'idée d'un complexe d'événements dont sa venue forme le centre. Nous attendons bien des choses avec lui, et même avant lui. La notion de signe précurseur de sa venue et d'événements qui constituent le prélude de son avènement même, c'est une notion qui est clairement enseignée dans l'Écriture, et c'est sur les signes et préludes du retour de Jésus que nous allons donc porter notre regard aujourd'hui. C'est le sujet de la deuxième étude, et je voudrais lire, pour l'introduire, un long passage, mais ce n'est jamais trop long quand c'est la parole de Dieu, un texte qui est tout à fait fondamental pour le sujet. Je crois que nous faisons bien de lire le chapitre entier. Il s'agit, dans l'Évangile selon Matthieu, du chapitre 24. Le grand discours que Jésus a fait pour dérouler les perspectives qui concernent l'avenir dans le plan de Dieu, et particulièrement la fin du monde. Donc je lis dans la version du Semeur, la Bible du Semeur, le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. Je peux signaler qu'à la fin du chapitre 23, Jésus a déjà évoqué de manière peut-être énigmatique à la fois la destruction du temple qui va avoir lieu en raison du rejet de sa personne, de sa mission par les chefs d'Israël, et aussi un événement futur qui semble bien impliquer le renversement d'attitude de la part du peuple d'Israël. Jésus dit à la fin du chapitre 23, « Désormais, vous ne me verrez plus. » Et au verset 38, « Votre maison, c'est-à-dire le temple, va être abandonnée et restera déserte. » Mais il dit, « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et alors c'est dans l'enchaînement donc de cette parole que nous lisons le chapitre 24. Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, « Oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur l'autre. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, « Dis-nous, quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « Je suis le Christ !» Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne reverra pareille souffrance. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps de calamité. Si quelqu'un vous dit alors, « Voyez, le Christ est ici, il est là !» Ne le croyez pas. De faux Christs surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Si l'on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Si l'on prétend, il se cache en quelque endroit secret, n'en croyez rien. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Là où sera le cadavre, là s'assembleront les vautours. Immédiatement après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes, ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas avant que tout cela ne commence à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quant au jour et à l'heure, personne ne sait quand cela se produira, ni les anges dans le ciel, ni même le Fils, personne sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors, deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ. L'un sera emmené, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de tourner la pierre de meule. L'une sera emmenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi tenez-vous prêts, car c'est au moment que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Quel est le serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel, pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur, que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur, qui se dit « mon maître n'est pas prêt de rentrer », et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas, et à un moment qu'il ne connaît pas, alors le maître le punira très sévèrement, et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. C'est là l'ensemble du chapitre. Vous discernez que je ne vous ai pas fait des promesses de gascon en disant que l'Écriture elle-même nous parle de signes qui annoncent la venue du Seigneur Jésus. C'est lui qui prend le titre de Fils de l'homme, vous le savez, dans le texte des Évangiles. Trois questions me semblent se poser, auxquelles je vais essayer de répondre dans le déroulement de mon exposé. D'abord, tout simplement, quels sont les signes et les événements qui préluderont au, la grande conclusion, au grand événement final. Il s'agit pour nous de résumer l'enseignement non seulement de ce chapitre, mais de la Bible tout entière, bien sûr seulement le résumé. Deuxième question, comment ces signes fonctionnent-ils? Comment articuler l'existence de tels signes avec l'exhortation à veiller toujours, avec l'accent sur l'imminence du retour du Seigneur Jésus qui peut se produire à l'improviste au moment où nous ne l'attendons pas? Comment concilier ces éléments et comment comprendre le fonctionnement même des choses qui nous sont dites? Et puis en troisième lieu, pourrons-nous demander où nous en sommes, nous-mêmes, étant donné les signes qui sont donnés, si nous nous replaçons en cette fin de deuxième millénaire, après la naissance de Jésus, sa première venue, pouvons-nous nous repérer par rapport à ces choses dites? C'est une question qui, je pense, vous intéresse, alors j'essaierai de donner quelques éléments de réponse. Mais considérons d'abord les choses annoncées en dehors d'Israël. À coup sûr, certaines des choses qui sont à prévoir, ou peut-être se sont déjà produites, mais qui étaient futures du point de vue du Nouveau Testament, concernent ce que le Nouveau Testament appelle l'Israël selon la chair. Israël qui porte ce nom parmi les nations. Et les derniers versets du chapitre 23 que j'ai eu à cœur de vous signaler me semblent toucher ce sujet. Mais nous n'avons pas le temps de tout traiter aujourd'hui. Et j'ai prévu que nous revenions sur la question plus particulière de l'Israël selon la chair et des prédictions ou prévisions que l'on peut trouver dans l'Écriture à son propos lors de la prochaine étude. Je ne sais pas quand elle aura lieu, peut-être pas en septembre, parce que nous aurons peut-être un institut biblique commun, mais disons que ce sera la prochaine de la série. Donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. J'écarte cet élément-là pour des raisons de répartition dans le temps. Alors quelles sont, à part ce qui touche plus directement Israël, les choses annoncées? Je discerne quatre éléments principaux. D'abord, la prolifération des malheurs, de la sorte de malheurs qui ont jalonné l'histoire, qui ont toujours fait l'objet des terreurs et angoisses des humains. Les guerres, d'abord. Les guerres, Jésus dit très clairement qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles soient éliminées, que des guerres auront lieu, nation contre nation. Le mot « nation », d'ailleurs, dans l'original, c'est le mot « ethnos », étant donné la manière dont l'adjectif « ethnique », le substantif « ethnie » qui en dérive en français, est employé dans les bulletins d'information sur les conflits qui ont lieu à l'heure actuelle, je pense que je peux signaler que c'est « ethnos » contre « ethnos », »,« ethnie » contre « ethnie », qui prédit par Jésus dans ce passage. Les guerres, les famines, les tremblements de terre, et là encore l'actualité nous en a rapporté un juste ces derniers jours, qui a touché un certain nombre de Français, c'est le premier ensemble de signes que mentionne Jésus comme devant se produire avant son retour, avant la fin. Deuxième élément, il ressort du texte que nous avons lu, l'évangélisation du monde. C'est ce qu'il dit clairement au verset 14. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. De nouveau, il s'agit d'un événement qui ne s'était pas produit au moment où Jésus parlait et qui l'inscrit dans le programme comme devant précéder la fin, le retour glorieux qui conclura l'histoire, c'est dit clairement. Et cette pensée qu'il faut que cette évangélisation s'accomplisse pleinement avant que les tout derniers événements puissent se produire, nous la retrouvons en d'autres endroits de l'Écriture. nous aurons peut-être l'occasion dans les études suivantes d'examiner tel ou tel, je pense en particulier au chapitre 20 de l'Apocalypse, mais je signale que c'est déjà quelque chose de très clair au chapitre 6 de l'Apocalypse, dans les versets 9 et suivants, où ceux qui se trouvent auprès du Seigneur, ayant quitté ce corps, les chrétiens qui sont morts sur la terre et qui sont auprès du Seigneur, lui demandent de venger enfin leur sang, de libérer leurs frères, d'agir, de mettre fin à l'histoire. Et ils sont présentés comme demandant jusque à quand. Et il leur est répondu qu'il faut que le nombre de leurs compagnons de service soit complet. Que le Seigneur ne veut pas revenir avant que tous ceux qu'il a prévu de sauver au long de l'histoire aient effectivement, par la foi, saisi la grâce. Donc ça implique que l'évangélisation se déroule. Il faut un temps pour que l'évangélisation du monde atteigne les 100% que Dieu a prévu. C'est le sens même du délai qui s'écoule avant le retour de Jésus-Christ. Donc ça, c'est aussi un événement qui fait partie des signes et préludes, la bonne nouvelle répandue parmi toutes les nations. Troisième élément, ce que j'appellerais le déchaînement du mal. C'est lui qui va nous occuper un peu plus longtemps que les autres. Apostasie, tribulation, faux Christ ou antichrist. Ces trois choses me semblent aller ensemble, c'est pourquoi j'en fais un élément, le troisième élément, parmi donc ces signes et préludes. Dans le texte du discours de Jésus que nous avons lu, on trouve ces éléments. Jésus annonce très très clairement qu'il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Plusieurs viendront disant « c'est moi » ou répondront à son propos. Des bruits et des rumeurs, des doctrines. Il est dans le désert, il est ici, il est là. Ne les croyez pas. Faux Christ, faux prophète, apostasie. Certains ne tiendront pas le coup. Ils abandonneront la foi, dit le verset 10. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et l'amour chrétien, c'est le terme qu'on traduisait autrefois charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Même ceux qui demeureront dans l'amour du Seigneur laisseront s'attiédir leurs ailes. Ils seront quand même influencés par le climat qui règnera alentour et qui est défini ici comme le mal qui augmente. Parce que le mal augmentera, oui, même d'authentiques chrétiens verront leur amour qui baissera d'intensité, de consécration. C'est un temps, donc, de recul, d'apostasie pour certains. Et ce temps implique aussi la persécution des témoins fidèles. Vous serez haïs de tous à cause de moi, dit Jésus. Persécution des fidèles disciples de Jésus. Le discours, donc, que nous avons lu, met ces choses en valeur, mais d'autres passages du Nouveau Testament nous permettent d'enrichir encore le tableau, et en particulier en précisant un peu les choses à propos du faux Christ, qui semble devoir venir et couronner tout ce processus dans le déchaînement ultime de tout ce que l'adversaire peut produire contre le Seigneur. Dans le discours de Jésus, il n'est question que de faux Christ au pluriel et de faux prophètes, mais dans la seconde épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, la fois dernière, ceux qui étaient là peuvent se rappeler, nous avons lu un passage de la seconde épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit clairement qu'avant le retour du Seigneur, ça, ne croyez pas que ce soit déjà là, parce que vous savez ce qui doit se produire d'abord. D'abord doit se produire l'apostasie et doit venir l'homme sans foi ni loi, l'homme de l'iniquité, de l'illégalité, qui s'élève au-dessus de toute chose sacrée, jusqu'à s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu, se faire égal à Dieu. Cet homme, c'est donc qui représente la révolte suprême contre Dieu, il nous a dit qu'il ne peut pas se manifester encore, que le mystère d'iniquité qui se dévoilera en lui en quelque sorte, que ce mystère d'iniquité agit déjà. C'est un facteur dans la situation, même au moment où l'apôtre Paul écrit, mais qu'il y a quelque chose qui lui barre le chemin, qu'il y a un obstacle qui l'empêche de se manifester, que cet obstacle doit être levé à un certain moment, ce qui le retient, celui qui le retient, dit l'apôtre Paul, et qu'à ce moment-là aura lieu la parousie. L'apôtre Paul emploie le même mot que pour le Seigneur Jésus, mais la parousie de cet homme de l'iniquité, qui portera en quelque sorte le péché humain à son comble. Et alors, le Seigneur Jésus l'anéantira par l'éclat de son avènement. Il y aura un esprit d'égarement qui, à partir de cet homme, avant que le Seigneur Jésus mette fin à toutes ces horreurs, un esprit d'égarement qui entraînera et séduira les humains parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Alors ils se laisseront piéger par toutes les propagandes de cet individu. Semble-t-il, il s'agit d'un individu. Je sais qu'on peut comprendre qu'il s'agit plutôt d'un type d'homme, une catégorie, mais ça a quand même l'air d'être un individu quand on lit le passage. Et puis dans la première épître de Jean, au chapitre 2, Jean dit, vous savez, vous avez entendu dire, c'est l'enseignement que vous avez reçu dans les églises, qu'un antichrist vient. Mais il y a maintenant plusieurs antichrists qui sont à l'œuvre dans le monde. Ce sont ceux qui répandent la fausse doctrine concernant la personne de Jésus-Christ. Des gens qui semblent bien repérés dans l'histoire comme les premiers propagateurs du gnosticisme, les premiers gnostiques, pré-gnostiques si on veut, au premier siècle, des gens qui ont confectionné une sorte de pseudo-christianisme reprenant des éléments du christianisme mais reniant l'essentiel, reniant Jésus-Christ venu dans notre chair, dans notre nature humaine même. Pour eux, la nature humaine du Christ n'est qu'une apparence, et puis il n'est pas non plus d'ailleurs Dieu lui-même. Alors il nie le Père et le Fils, il nie Jésus-Christ venu en chair, tout en prétendant prêcher le Christ. C'est ce qu'on a trouvé dans les textes des gnostiques, parce qu'on en a retrouvé un certain nombre. Et Jean les appelle les antichrists, en associant cette dénonciation de ces antichrists, donc à la formule, vous avez entendu dire qu'un antichrist vient. Alors certains lecteurs, là encore, pensent que Jean réduit à l'activité de ces faux docteurs gnostiques ou pré-gnostiques toute la promesse de l'antichrist. On pourrait paraphraser ce qu'il dit au chapitre 2, donc de sa première épître, de la manière suivante. Vous avez entendu dire qu'un antichrist vient, eh bien, voilà comment il faut comprendre. Cette prédiction se réalise dans l'activité de ces faux docteurs. Un point, c'est tout. Mais ce n'est pas la seule façon de comprendre possible, et je pense qu'il y en a une autre qui est meilleure, qui trouve la même structure que dans la seconde épître aux Thessaloniciens. C'est pour ça que je pense que les deux textes se confortent mutuellement. Dans les deux cas de Thessaloniciens 2, nous avons une rébellion suprême contre Dieu, l'antichrist qui vient dans la première de Jean, selon l'enseignement qui a été donné. Mais avant que vienne cet ultime, il y a déjà des antichrists. Il y a déjà une action du mystère d'iniquité. Vous avez la même structure fondamentale. Quelque chose de spectaculaire, de suprême, qui est encore à venir, mais une action de ce qui lui correspond, de ce qui est déjà la semence, la puissance latente de ce qui se produira ultérieurement, qui est à l'œuvre dès le premier siècle, dans le cours de l'histoire. Je trouve que cette structure est impressionnante, qu'elle nous permet de dire qu'il y a effectivement des antichrists, qui sont ces faux docteurs, et puis un antichrist, qui est le même que celui dont parle la seconde aux Thessaloniciens, l'homme de l'illégalité, l'homme sans foi ni loi, pourrait-on traduire aussi de manière paraphrastique. Et je pense qu'on retrouve cette structure fondamentale aussi dans l'Apocalypse, bien que la chose soit un peu moins évidente, je pense qu'elle est là. La plupart des commentateurs évangéliques assimilent l'antichrist de la première de Jean et l'homme de l'illégalité de la seconde épître aux Thessaloniciens avec la bête dont parle l'Apocalypse à partir du chapitre 13. Surtout au chapitre 13 et au chapitre 17. Au chapitre 13, nous avons une bête qui monte de la mer, qui récapitule les traits des quatre bêtes païennes du chapitre 17, du chapitre 7 de Daniel. Et cette bête, manifestement, singe le Christ. On trouve chez elle plusieurs traits qui correspondent à ceux du Christ, de telle sorte que l'intention de singer le Christ est évidente. Alors le nom d'antichrist, qui signifie faux Christ, celui qui se substitue au Christ, et aussi qui s'oppose au Christ. Le mot anti a les deux sens en grec. Le nom d'antichrist semble très bien lui convenir. Il n'est pas employé dans l'Apocalypse, mais vraiment, ces traits qui caractérisent la bête numéro 1, celle qui monte de la mer au chapitre 13 de l'Apocalypse, permettent de dire oui, c'est l'antichrist. Alors il y a une deuxième bête qui surgit de la terre dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Elle est appelée plus loin le faux prophète. Elle est comme au service de la première bête. Elle fait valoir, et elle organise le culte de la première bête. Et la dualité des deux bêtes correspond exactement à celle du chapitre de Matthieu 24. Faux Christ et faux prophète. Oui. L'antichrist suprême faux Christ, le faux prophète suprême faux prophète au service de l'antichrist. Or, au chapitre 17, il y a quelque chose d'assez curieux. Cette bête a sept têtes. Tout ça, c'est symbolique. Il ne faut pas essayer de trop se représenter en faisant une image, parce qu'on n'y arrive pas. Ce sont des symboles qui se superposent, qui s'additionnent. Il faut les comprendre et non pas essayer de les voir en imagination. Elle a sept têtes. Et il nous est dit que la bête elle-même est une huitième. Que ces sept têtes sont sept rois, que la bête lui-même est une huitième, mais aussi un des sept. Alors vous avez donc une étrange équivalence. Vous avez la bête tout entière qui se résume en l'une des têtes, et cette tête même se trouve deux fois. Oui. Alors, cette situation bizarre, qu'il y ait deux têtes qui correspondent finalement à cette même quintessence de la bête, je n'essaie pas de l'expliquer immédiatement, mais je dis que la structure d'ensemble correspond à celle des deux autres passages dont je viens de parler. Vous avez la bête, qui est en position à Dieu tout au long, et puis vous avez la huitième tête au bout du compte, qui résume la bête. De même que le mystère d'iniquité agit tout le temps, mais qu'il a son expression suprême en l'homme qui va surgir d'après les Thessaloniciens, de même qu'il y a une activité antichristique qui se déroule tout au long, mais qu'il y a un antichrist qui va venir, de même la bête persécute le peuple de Dieu tout au long, mais va s'exprimer suprêmement avec la huitième tête, le huitième roi. Tous ces chapitres me semblent s'éclairer les uns les autres et donner une certaine assurance au schéma que je vous propose. Mais alors que sera cet antichrist si nous admettons qu'effectivement il va y avoir une personne qui au bout du compte résumera toute l'opposition à Dieu? Le texte de la première épître de Jean suggérerait plutôt un théologien, suggérerait plutôt un grand prédicateur, quelqu'un qui se présenterait, à la manière du Christ d'ailleurs, comme un leader religieux dont le mode d'expression serait le discours religieux. Les antichrists du temps de l'apôtre Jean, qui donc annonce l'antichrist majuscule, ils ont été des prédicateurs, des docteurs, c'est-à-dire des enseignants, répandant une doctrine. Alors, à partir de là, on serait enclin à dire, bon, l'antichrist va être un grand prédicateur théologien, vous voyez, un homme qui répondra avec beaucoup d'habileté, mais comme leader religieux, une doctrine pernicieuse, un faux christianisme dans le monde. Mais d'autre part, surtout les éléments de l'Apocalypse suggèrent aussi un homme politique, suggèrent quelqu'un qui pourra mettre à son service toute la puissance de l'État, du bras séculier. Cela en particulier parce qu'il récapitule les symboles pour les grands royaumes, les rois, que nous avons dans le livre de Daniel. Et puis il est question de rois aussi dans ce chapitre 17 de l'Apocalypse. Alors voyez, on est un peu tiraillé. On hésite un peu. Est-ce que cet antichrist sera d'abord un grand chef d'État, un dictateur qui réussira à entraîner le monde entier derrière lui, ou est-ce qu'il sera plutôt un grand faux prophète? Comment voir ce qu'il va faire? Et la chose se prolonge avec ce qui concerne Babylone, car dans l'Apocalypse, il est clair qu'il y a une communauté qui est représentée par une femme, l'antithèse de Jérusalem, de même que le Christ à sa Jérusalem, qui est l'Église, avec lui, la bête à sa Babylone. Au chapitre 17, la bête porte la femme vêtue d'écarlate, qui s'appelle Babylone, la grande cité impie, mais qui, elle reprend les traits de Rome dans ses chapitres à coup sûr. Et d'ailleurs, cette femme est la prostituée, par opposition à Jérusalem qui est l'épouse. Oui, tout est calculé, il y a un contraste tout au long dans ces chapitres de l'Apocalypse. Mais alors, que représente Babylone, la prostituée, au chapitre 17? Est-ce que c'est une église, une fausse église, par opposition à Jérusalem qui est la vraie, véritable église de l'agneau? Ou bien est-ce que c'est une civilisation, un empire? Rome et Babylone, c'était des empires dans l'Antiquité. Vous voyez, on hésite. Je crois que nous ne pouvons pas être absolument sûrs. Mais en même temps, je pense que nous pouvons dire que les deux éléments ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Que c'est assez probablement un mélange que va représenter Babylone et qui va soutenir l'action de l'Antichrist. Nous avons vu, dans notre propre siècle, des leaders politiques organisant un véritable culte de leur personnalité. La politique et la religion ne sont pas forcément séparées. C'est un trait plutôt étonnant que la séparation de la religion et de la politique qui caractérise nos démocraties occidentales depuis quelques siècles. Et je pense que c'est un fruit de la réforme en particulier. Donc, ne pensons pas que pour l'Antichrist, il y a nécessairement à choisir entre les deux profils que j'ai évoqués. Il pourra très bien être à la fois un super empereur mondial, sans doute avec un autre titre que le mot empereur qui fait un peu vieillot, mais enfin on n'en sait rien, et un leader qui paraîtra un homme très spirituel qui entraînera à sa suite tous ceux qui voudront trouver le sens de leur vie, qui croiront découvrir le véritable mystère dernier des choses. Probablement les deux vont se mélanger, mais nous ne pouvons pas savoir de quelle façon, très exactement, et dans quel dosage. Vous avez des chrétiens qui ont cru pouvoir étudier ces chapitres de Daniel et de l'Apocalypse si précisément qu'ils ont dit exactement l'Antichrist surgira d'une confédération de 10 États en Europe occidentale qui reproduira exactement les frontières de l'ancien empire romain. Je pense que leurs conclusions sont au moins fragiles, qu'on ne peut pas le démontrer, que le genre littéraire de l'Apocalypse et du livre de Daniel, avec tant de symboles, un langage qui n'est pas toujours littéral, ne nous empêche de dire ces choses comme ça, bien que certains chrétiens évangéliques aient cru pouvoir le faire. Puis quatrième élément des choses attendues, l'enlèvement de l'Église. Nous l'avons déjà évoqué la dernière fois, les croyants, lorsque le Seigneur Jésus paraîtra, seront enlevés à sa rencontre. Les croyants ressuscités, parce que nous les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis dans la paix du Seigneur Jésus, ils ressusciteront et nous serons changés. Et nous irons à la rencontre du Seigneur. Nous reviendrons sur la question de la résurrection dans une autre étude. Mais nous avons déjà vu qu'au moment du retour du Seigneur, c'est le premier élément, c'est le prélude de l'avènement du Seigneur Jésus lui-même. Mais à ce propos, il y a dissentiment, différence d'opinion parmi les chrétiens évangéliques, et il faut que je le mentionne. L'opinion qui a été l'opinion classique, celle qui, je crois, a régné sans exception jusqu'au début du XIXe siècle, c'est que c'est au moment où le Seigneur Jésus paraît que nous sommes enlevés à sa rencontre. Et c'est la fin, c'est à ce moment-là qu'a lieu la résurrection et qu'a lieu le jugement, nous reverrons cela. Mais, depuis le début du XIXe siècle, il y a une autre opinion qui s'est installée, à savoir que les croyants seraient enlevés dans une première phase du retour de Jésus-Christ qui resterait secrète. Jésus-Christ ne redescendrait pas sur la terre à ce moment-là. Que les croyants monteraient avec lui au ciel et puis redescendraient après 7 ans, l'opinion la plus courante, avec lui, alors pour le vrai retour. L'idée, c'est que pendant ces 7 ans, se célèbrent les noces de l'agneau dans le ciel pour ces croyants enlevés auparavant. L'idée clé de ce deuxième schéma, c'est que les croyants échappent au temps de l'Antichrist et de sa persécution. Le temps de l'Antichrist, c'est le temps de la tribulation, c'est-à-dire de la persécution qui se déchaîne, la période la plus difficile pour des disciples du Seigneur Jésus. L'idée, c'est que l'Église est enlevée avant que la grande tribulation, les chrétiens n'ont pas à la subir, ils sont au ciel pendant ce moment-là, donc que le règne de l'Antichrist, qui est équivalent à ce temps de tribulation, donc se déroule en l'absence des chrétiens. Et très souvent, ceux qui adoptent ce deuxième schéma estiment que c'est la présence de l'Église ou du Saint-Esprit dans l'Église qui est ce qui retient l'Antichrist, qui retient la manifestation du mystère d'iniquité. Il faut que cet obstacle soit enlevé de la voie, d'après donc la seconde aux Thessaloniciens, pour que l'homme de l'illégalité sans foi ni loi apparaisse. Eh bien, disent-ils, c'est l'Église qui fait obstacle, avec le Saint-Esprit qui réside dans l'Église. Donc, une fois que l'Église est enlevée, alors ce peut être le temps de l'Antichrist. Et un autre verset qui est très souvent invoqué pour à l'appui de ce deuxième schéma, c'est le verset qu'on trouve dans la lettre à l'Église de Philadelphie, au chapitre 3 de l'Apocalypse, « Je te garderai de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde, la tentation ou de l'épreuve. » Alors, on y voyait, l'Église fidèle se voit épargner l'extrême épreuve de la tribulation. Je vous dis, sans entrer dans beaucoup de détails, que je ne pense pas ce deuxième schéma solidement appuyé sur les versets bibliques. Je crois que c'est une construction qui n'est pas bien bâtie si l'on traite les textes bibliques tous ensemble et comme il le faut. Il y a d'ailleurs une origine un petit peu suspecte, il faut le dire. C'est une prophétie qu'a reçue une dame dans un cercle dit irvingien, fondé par Edward Irving au début du 19e siècle, qui est à l'origine de ce schéma. Alors bien sûr, ce n'est pas sur l'autorité de cette prophétie, car aucune prophétie après la Bible ne peut servir de base pour une doctrine. Ce n'est pas sur l'autorité de cette prophétie que les chrétiens évangéliques qui adoptent ce schéma l'adoptent. Mais quand même, il est un peu troublant que ce soit là l'origine historique. Alors, la substance de cette prophétie a été reprise par Darby, fondateur des assemblées darbistes. Il en a fait un élément clé du système d'ensemble qu'il a élaboré. Et maintenant, donc, un certain nombre de chrétiens évangéliques adoptent cela. Ceux qui s'y opposent, c'est, me semble-t-il, deux gros ensembles bibliques. Il y a le fait que nous avons un seul jeu de termes que nous avons étudié la dernière fois pour le retour de Jésus-Christ. Que l'idée que le retour de Jésus-Christ se déroule en deux phases différentes n'est suggérée vraiment nulle part dans les textes bibliques, et que les mêmes mots, avènement, jour du Seigneur, parousie, etc., sont employés, semble-t-il, pour une seule et même réalité, qui n'est pas séparé, écartelé en deux éléments de distance de 7 ans, chez certains 3 ans et demi. Deuxième grand élément, vraiment nous l'avons vu dans Matthieu 24, s'il y a un message qui est adressé aux chrétiens, aux disciples de Jésus, et dans le temps où nous sommes comme au premier siècle, c'est que Dieu n'a pas prévu de les enlever avant la période de l'épreuve, de leur épargner simplement la tribulation. Le message, c'est celui qui persévérera, qui tiendra bon, jusqu'à la fin sera sauvé. Ces jours seront abrégés à cause des élus. Mais il n'est pas dit, oh les élus, eux, ils vont partir avant. Il me semble que se trahit dans l'élaboration de ce système le désir charnel d'échapper à la persécution. Mais c'est normal, on n'a pas envie de connaître la persécution. Mais je crois que ça a un peu infléchi la lecture biblique. En ce qui concerne le texte d'Apocalypse 3, verset 10, l'expression « Je te garderai de l'heure de la tentation qui vient sur le monde », d'abord c'était dit à une église du 1er siècle, une église bien réelle au 1er siècle, elle n'a pas été enlevée. Donc l'interpréter dans son premier sens d'un enlèvement, ça ne jouerait pas. Puis ensuite, l'expression est un peu vague. Est-ce que ça veut dire que cette tentation ne viendra pas, ou est-ce que ça veut dire qu'il gardera de succomber au péché? Le langage rappelle un petit peu ce que dit la prière de Jésus en Jean 17. Or, dans Jean 17, Jésus dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. » Précisément, ne pas les ôter du monde, ne pas les enlever. Et puis alors, il y a toute la logique de 2 Thessaloniciens 2, toujours ce même passage. Pourquoi Paul dit-il à ses lecteurs de Thessalonique que l'Antichrist doit paraître, enfin il ne l'appelle pas l'Antichrist, mais l'homme de l'iniquité, de l'illégalité, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas encore maintenant le jour du Seigneur. Et le moment où nous serons réunis à lui. Ils leur disent, ne vous laissez pas troubler, ne croyez pas n'importe quoi, le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé, vous savez ce qui doit se passer. D'abord, l'apostasie, l'homme d'iniquité, etc. Alors, s'il devait être enlevé avant l'homme d'iniquité, ce repère que donne Paul aux Thessaloniciens ne jouerait plus aucun rôle. Si précisément, pour eux, la réunion avec le Seigneur devait avoir lieu avant l'avènement de l'homme d'iniquité, on serait juste à l'envers de ce que Paul dit. Donc, avec beaucoup d'autres évangéliques, je ne pense pas que ce schéma doive être retenu. Alors, j'ai tenu quand même à vous l'exposer, puisqu'il est présent, puis je ne dis pas que ceux qui l'adoptent sont hérétiques, je pense qu'ils se trompent sur ce point, mais ce sont des frères, des sœurs estimés dans le Seigneur. Mais donc, j'ai pris le temps quand même de préciser ce point. Alors maintenant, nous abordons le deuxième élément. Ça va être plus bref que le premier, rassurez-vous. quelle est la fonction de ces signes? Je crois qu'il est inévitable de sentir une certaine tension entre les paroles que prononce Jésus. Il dit d'une part, je vous ai prévenu, je vous l'ai dit à l'avance. Donc, il a indiqué des éléments précis dont les disciples peuvent constituer le savoir. Et puis d'autre part, il leur dit, nul ne sait, nul ne connaît le jour et l'heure. Vous ne savez pas, le Seigneur viendra comme un voleur, c'est-à-dire un moment imprévu. Donc, veillez toujours. Et il tend à leur déconseiller de paraître trop informés. Soyez sur vos gardes, faites bien attention. Si on vous dit, non, ne croyez pas. Mais il y a quand même une petite tension entre les deux. Alors comment pouvons-nous commenter cette tension, comprendre qu'il en soit ainsi? La première pensée que je vous propose est la suivante. Je crois que cette dualité, nous savons quelque chose mais nous ne savons pas tout, et donc nous sommes obligés d'attendre un peu à tout moment, correspond très bien à notre humanité, à notre nature humaine telle qu'elle est. L'humanité, parce que nous sommes des êtres limités, finis, ne peut vivre en bonne santé que grâce à des dosages très fins, très justes. Tout est une question de dosage dans le fonctionnement de notre être humain. C'est vrai pour le corps, mais c'est vrai pour l'esprit aussi. Un petit peu trop de tonique, et ça y est, ça devient toxique. Un verre, c'est peut-être très bon, et c'est biblique, réjouit le cœur de l'homme, mais un peu plus, bonjour les dégâts. Tout est question du juste dosage. C'est sur cette question de dosage aussi que repose l'homéopathie. Et je pense que le Seigneur a juste opéré le dosage voulu pour que notre espérance soit saine. Si nous savions tout, si nous avions tout le détail du plan de Dieu, nous ne serions pas capables de le supporter. Nous ne pourrions plus réagir naturellement. Si nous en savions trop, ce serait inhumain. Et Dieu nous épargne un tel savoir où tout nous paraîtrait déterminé. Nous serions comme paralysés. Si nous ne savions rien, c'était le blanc complet, là aussi nous serions perdus. Mais le Seigneur dose exactement. Nous avons toujours besoin de lui, nous ne pouvons pas devenir indépendants en disant oh « ben je sais ». Nous devons toujours être en éveil. Mais en même temps, il nous a dit des choses. Il nous a donné des signes qui nous permettent d'exercer notre responsabilité, de lui répondre dans le cadre de la dépendance où nous sommes de lui. Ça, c'est ma première remarque. Deuxième remarque, et ça aussi, ça correspond à ce qu'est l'humanité. Nous sommes à la fois un corps, l'humanité tout entière, et plus spécialement la nouvelle humanité qu'est l'Église, et des individus. Nous ne sommes pas de purs individus, mais nous ne sommes pas seulement les cellules d'un corps. Chaque individu a une valeur propre, une relation propre à Dieu. Et je crois qu'on peut dire qu'il y a un équivalent individuel de la fin du monde pour le monde. En fait, lorsque nous sommes enlevés par la mort pour aller dans la présence du Seigneur, c'est pour nous-mêmes, chacun individuellement, c'est pour nous-mêmes l'équivalent de la fin du monde. Ce qui veut dire que cette exhortation à la vigilance, être toujours prêt, Elle joue très bien selon la dualité de l'individu et de la collectivité. Troisième considération, les signes ne sont pas des signaux. Très souvent, nous créons une fausse difficulté à l'endroit que nous sommes en train de considérer en imaginant qu'il s'agit simplement d'un repère chronologique. Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu pour le monde? Voyez. Juste le signal, la sonnerie retentit ou la lumière s'allume. Mais signes et signaux, c'est pas la même chose. Ce sont des signes que nous donne le Seigneur qui nous montre comment l'histoire évolue, qui nous rappelle ce qu'il a annoncé, mais qui ne nous donne pas une maîtrise de la, de la chronologie. Nous ne pouvons pas chronométrer ce développement. Parce que ce ne sont pas des signaux. Et dans un signe, c'est le sens, la signification qu'il faut essayer de trouver. Or, la signification est très très riche des signes que nous venons de survoler. Les guerres, les tremblements de terre, les famines sont un signe du véritable état du monde dans lequel nous sommes. C'est un monde pourri, un monde qui, par l'effet du péché, est en train de se désagréger, qui ne subsiste que par le sursis de Dieu. Ces signes sont porteurs de sens sur l'état du monde dans lequel nous sommes, sur sa vraie situation devant Dieu. Deuxième catégorie, l'évangélisation du monde. Mais c'est aussi un signe admirable de la victoire opérée une fois pour toutes par le Seigneur Jésus à la croix. Que ce n'est pas un petit événement anecdotique, que c'est l'événement décisif, qui a une portée universelle. L'apostasie, l'antichrist, quelle est la signification? Je crois qu'elle est très très importante. Elle nous rappelle que le mal n'existe pas par lui-même, que le mal est toujours la corruption d'un bien. Le diable est le singe de Dieu. Dès le commencement, le mal prend toujours ce qui est bon, ce que Dieu a fait bon, et le tord, en abuse, déforme. On le voit bien, j'ai essayé de l'exposer dans mon livre Révélation des origines, à propos du troisième chapitre de la Genèse. Et alors quand le Christ est venu, et qu'il a opéré la révélation intégrale et le salut de l'humanité, eh bien le diable fait surgir un faux Christ. Il singe le Christ. Et le diable suscite un faux christianisme, un christianisme d'apostasie avec une fausse église. Il suscite une doctrine qui a les apparences de la piété, mais qui renie ce qui en fait la force, comme dit l'apôtre Paul justement en parlant de ces mêmes doctrines gnostiques. Nous repérons très bien quelle est la stratégie, et l'unique stratégie possible de l'adversaire. Singer l'œuvre de Dieu. D'où une aggravation du mal. Plus Dieu déploie sa bonté, plus le diable réussit à produire une corruption pernicieuse par cette bonté, jusqu'au grand clash final où l'homme de l'iniquité et le Seigneur Jésus sont face à face et le Seigneur Jésus écrase l'impie par l'éclat de son avènement. Et puis, je pense qu'on pourrait encore souligner que la présence des signes montre que l'histoire est conduite par Dieu. Que ce n'est pas un système qui se déroule mécaniquement, de telle sorte qu'on pourrait prédire, sachant la situation à un moment donné, quelle sera la situation le moment suivant. Non, Dieu est libre, il conduit l'histoire, il est au-dessus de l'histoire. Mais en même temps, il la conduit. Ce n'est pas un chaos, ce n'est pas simplement des événements qui partent dans tous les sens, au hasard. L'existence des signes correspond aussi à cette situation de l'histoire qui est une continuité conduite librement par Dieu. Voilà donc quelques données pour votre réflexion supplémentaire concernant donc la fonction des signes. Il reste à répondre en 3 minutes à la question sur notre situation aujourd'hui. Je soulignerai d'abord que les signes sont là. Et même pour les signes qui nous surprennent le moins, je crois qu'on peut dire qu'il est quand même assez remarquable que les paroles de l'Écriture soient aussi précisément et complètement réalisées. Il y a eu bien des gens, des penseurs rationalistes, des prophètes du progrès au XIXe siècle en particulier, d'autres, qui annonçaient que toutes les guerres seraient éliminées, toutes les famines, que tout ça c'était le passé de l'histoire humaine, mais que ce serait éliminé, et puis que la religion aussi disparaîtrait. Or, aujourd'hui, qui a eu raison? Sinon le Nouveau Testament. En ce qui concerne l'apostasie, le faux christianisme, Je ne pense pas que nous soyons venus encore tout à fait au stade où l'homme d'iniquité apparaît, si vraiment c'est un individu qui doit paraître. Mais je pense quand même que nous pouvons repérer précisément les tendances correspondantes. Et l'idée de faux christianisme est celle qui permet d'interpréter la modernité, la culture qui est la nôtre, de la manière la plus exacte. Chesterton disait que la plupart des convictions de nos contemporains, leur façon de parler de la liberté, de la personne, des valeurs, sont des idées chrétiennes devenues folles. C'est emprunté au christianisme, comme autrefois certains éléments dans la gnose, le gnosticisme, mais avec un sens qui est tordu, corrompu. Oui. Alors ça a une apparence, mais on dit parfois la civilisation moderne est post-chrétienne. Elle porte la marque du christianisme, mais je pense qu'on pourrait dire bibliquement qu'elle est anti-chrétienne, qu'elle correspond à cette singerie où des éléments du message chrétien sont repris. Et dans les églises aussi. C'est vrai pour le monde, mais si nous tenons à la foi évangélique, si le tabernacle, dans toute son histoire, a combattu pour une position très ferme, c'est parce qu'il y a un faux christianisme qui pactise avec ce monde antichrétien, qui a une place large dans pas mal d'autres églises de la chrétienté. Donc, je ne pense pas que nous puissions dire que nous sommes tout à fait hors de l'accomplissement des choses qui sont annoncées. Quant à la phase exacte, moi je dirais très franchement qu'il me semble que nous sommes dans une phase où le point culminant, où le paroxysme paraît plus éloigné qu'il y a quelques décennies. Dans les années 60, après l'ère stalinienne, avec le maoïsme triomphant, j'avais l'impression que ce mélange d'idéologie politique, de culte des personnalités, était très proche de ce qu'on pourrait attendre au moment de l'émergence de l'Antichrist. Alors vous savez que depuis, il y a eu des changements en sens contraire. Et il n'y a plus guère que Fidel Castro, qui est un peu figure de leader de cette période ancienne, et encore certainement avec beaucoup moins de prestige. Donc, c'est comme, c'est une image que mon père employait, comme quand on s'approche du port et qu'il y a pas mal de vagues, au sommet de la vague, on a l'impression qu'on y est, et puis on est de nouveau dans le creux de la vague. Aujourd'hui, par rapport à 1965 ou 68, on pourrait avoir l'impression que c'est plus loin. Mais ce que je pense pouvoir dire avec fermeté, et en attendant que nous étudions la question d'Israël la fois prochaine, c'est que toutes les conditions sont là pour que ça se produise éventuellement très vite. Nous ne sommes pas à la phase tout à fait finale, mais ça pourrait vraiment se produire, me semble-t-il, sans délai. Les conditions techniques et les conditions culturelles générales sont là pour que ce qu'on peut envisager comme le scénario final se produise avec très peu de délai. Alors, veillons, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Merci pour votre attention. J'ai pris toute l'heure, c'est l'heure, donc ceux qui doivent partir peuvent partir, mais je suis prêt à répondre aux questions de ceux qui ont des questions. Monsieur de Chabanne.
J'ai trois questions, parce que je voulais poser rapidement.
Oui.
De l'homme, l'idée, comme aujourd'hui, par exemple, très peu de gens sont venus croire en Dieu, et il me semble que, de plus qu'il y a 50 ans, il y a plus de sensibilisation de la seulement croyant même si c'était pas chrétien. Donc, est-ce que dans l'Antéchrist, peut-être une idée de ce type, beaucoup plus entrée, beaucoup plus forte, beaucoup plus.
Alors, la première question, je crois que je vais la dire au micro, et puis répondre très brièvement. Pourrait-on concevoir que l'Antichrist soit plutôt une idée? On voit bien que l'athéisme, un athéisme au moins pratique, a beaucoup gagné en 50 ans, que les gens sont beaucoup moins marqués par l'idée de Dieu. Alors, est-ce que ce pourrait être une idée? Oui, je pense que c'est possible. mon choix devant les textes, et j'ai essayé d'en rendre compte, est qu'il y a probablement un homme, parce que je me dis que le diable va essayer de singer le plus possible, mais il ne peut jamais singer entièrement, alors je ne peux pas dire, non c'est exclu, ça ne peut pas être une simple idée. Peut-être, c'est une idée ou un type d'homme, comme j'ai dit. Alors peut-on perdre le salut par manque de persévérance? Selon la parole, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça c'est un grand sujet sur lequel il vaut mieux, je crois, que je ne fasse pas de développement maintenant. Toutes les dernières pages de mon cours publié, donc la doctrine du péché et de la rédemption, sont consacrées à ce sujet. Je peux vous y renvoyer. Je crois qu'un vrai chrétien persévérera. Mais ce n'est pas une assurance automatique comme ça, c'est parce que le Seigneur le conduira à persévérer et à se repentir d'un relâchement qui aura été sérieux peut-être à un certain moment. Oui.
Oui.
Alors, y a-t-il dans la vie de l'individu un moment où il est plus particulièrement attaqué? Je pense qu'on peut dire que c'est probablement le cas. Je ne voudrais pas formuler de loi trop générale. Je n'aurais pas, je pense, de base biblique suffisante pour le faire. Mais cela me paraît surtout découler de ce qui s'est passé pour Jésus lui-même. Je vois que dans le ministère de notre Seigneur Jésus, la tentation a été quand même plus spécialement concentrée sur des moments particuliers. Il y a eu le grand moment du désert, il y a eu le moment de Gethsémané. Et quand le diable le quitte à la fin de la tentation au désert, il est dit jusqu'à un moment favorable. Donc il y a bien des moments où l'attaque est plus forte. Et ce peut être un moment, peut-être dans la vie, ce peut être quelques moments, mais je crois qu'en effet, ce n'est pas là une situation étale, uniforme, tout au long de l'existence. Oui. Monsieur Berger.
Nous vivons en France dans un pays privilégié, nous sommes tranquilles en tant que chrétiens. Mais il y a des pays où les chrétiens sont vraiment, on peut dire, dans la grande tribulation, où il est interdit d'être chrétien. Oui. Ne croyez-vous pas que ce mot de grande tribulation, que c'est pas un... Oui.
La suggestion qui est faite, c'est que le mot de l'expression de grande tribulation, qui vient de l'Apocalypse, soit utilisé pour l'expérience des chrétiens aujourd'hui déjà dans les pays où ils sont persécutés. On pourrait penser à l'Iran. Et je réponds tout à fait d'accord. Pour moi, c'est le même schéma que ce que j'ai exposé dans la première feuille. Il y a une réalité constante de tribulation, de grande tribulation. Et ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, qui viennent de la grande tribulation et palmes à la main dans l'Apocalypse, dans ce sont, je crois, des croyants de toutes les époques. Ce sont ceux qui ont confessé le Seigneur Jésus sous les outrages, sous les coups. La grande tribulation, c'est effectivement ce qui se déroule tout au long. Je pourrais l'établir encore sur la base du chapitre 12 de l'Apocalypse. Mais je pense qu'il y aura un paroxysme lié à ce moment de déchaînement final où l'Antichrist paraîtra. Je pense que là, il y aura une répression antichrétienne et probablement au profit d'un faux christianisme qui sera, lui, glorifié, établi, qui aura tous les médias pour lui, tout le pouvoir politique. Je pense que ça, ce sera un moment de tribulation suprême. Monsieur Patin, Stéphane.
Il y a des années que je m'interroge sur la signification précise de cette marque, là où est le cadavre, la façon dont les retours, le Seigneur le finit à un moment donné.
Hein, oui. Alors la question porte sur cette phrase de Jésus qui est énigmatique. Là où sera le cadavre, là s'assembleront les vautours. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je n'en suis pas sûr. Je ne me rappelle même plus exactement de la thèse développée dans un petit article que nous avons publié autrefois dans Ictus sur le sujet. Mon impression, c'est que Jésus emploie une expression parabolique, de même que quand il y a un cadavre, une carcasse de bête morte, les vautours, ils savent bien la trouver, et tous convergent vers ce point, et pas un qui manque le lieu, de même quand le Fils de l'homme paraîtra. Impossible de le manquer. Tous les élus convergeront, se joindront à lui. Ça paraît une comparaison étonnante, mais parfois Jésus faisait des comparaisons comme ça, un peu brutales. Et le point de comparaison, c'est la certitude que toutes les personnes concernées trouveront bien l'endroit. Parce que c'est le point qui est en cause dans le paragraphe. N'allez pas si au désert, si on vous dit « se cache par ici », non, n'y croyez pas. Quand il paraîtra, ce sera une évidence pour tous, et vous le trouverez. Mais cela dit, je ne suis pas sûr de cette interprétation, il y a peut-être encore d'autres choses cachées. C'est une parole qui est reprise du livre de Job, et alors faire le lien avec le contexte chez Job, c'est plus compliqué. Bon, merci bien, merci.